Le collège de Kuta.
Des interviews.
Des actus.
De la musique.
Des sciences.
Des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Bonjour, c'est Lucien
et Maximilien, et nous serons les animateurs de cette émission.
Et oui, on va commencer par un résumé du voyage de Londres à Londres de Clémence et Elwen.
Puis Dana et Lana nous dévoileront les mystères de la Joconde.
Ensuite viendra le tour d'Arnaud qui nous parlera du mythe mythiquement mythique, l'Iliade.
Puis Louis et Charlie qui nous parleront des mangas.
Antoine nous dira les types de Pokémon.
Alissa et Aurore nous expliqueront qui est Cruella.
C'est qui elle ? Et enfin, Léon et nous-mêmes.
On nous parlera de la trompette.
Et c'est parti avec Clémence et Elwen qui reviennent tout juste de London.
Bonjour tout le monde, comme vous l'a si bien dit Lucien, nous allons vous raconter notre épopée à Londres. Et on commence tout de suite avec les impressions de deux élèves du collège avant le voyage, Léna et Gabin.
Quel est votre sentiment avant de partir ?
Alors moi je suis un peu stressée et j'ai un peu peur de partir sans mes parents, mais je pense que ça va quand même bien se passer.
J'ai hâte de rencontrer les familles d'accueil et j'ai peur de ne pas passer à la douane.
De quoi avez-vous le plus hâte pendant le voyage ?
C'est de rencontrer la famille avec qui je vais être et de m'acheter des souvenirs.
De rencontrer les familles d'accueil.
Et de quoi avez-vous le plus peur pendant le voyage ?
J'ai peur qu'on m'oublie et que je me perde.
De la nourriture.
Dimanche 23 mars, on est parti le dimanche 23 mars à 8h30 en bus en direction de Calais où nous avons pris le ferry pour traverser la Manche.
On deck 9, assembly station D is situated to the front of the ship in the fruit market on deck 9. Assembly station E is situated in the freight driver's club.
On a passé la nuit dans le bus et nous sommes arrivés à Londres vers 7h30, ensuite le petit déjeuner dans un restaurant McDonald's et on a enchaîné avec les visites de Nature Histoire Museum, les Sciences Museum, puis découverte du quartier
de Knightsbridge
et ensuite nous sommes allés dans les familles d'accueil.
Mardi 25 mars, on a passé la journée à Londres, enchaînant le Camden Town, son marché très coloré et ce British Museum. Le mercredi 26 mars, nous avons rempli notre galerie de photos. Nous avons visité tout le centre de Londres et on a vu le Big Ben, la Westminster Abbey, avenue Buckingham Palace où on a vu une fanfare.
Nous avons aussi vu Trafalgar Square, la place légendaire des quartiers des ambassades. Ensuite, nous avons visité le National Gaelic et les magasins M&M's et Lego.
Le jeudi 27 mars, c'était déjà la dernière journée. Pour aller à la Tate Modern, nous sommes passés devant le Shakespeare Club, le théâtre de Shakespeare. Nous sommes ensuite allés à la cathédrale Saint-Paul, une cathédrale qui a brûlé deux fois lors du grand incendie de Londres. L'après-midi, nous sommes allés sur le Tower Bridge et c'était une magnifique expérience. Puis partis sur un bateau arpenter la Tamise.
Aussitôt descendu, direction le Covent Garden, la dernière attraction londienne et de la semaine. Après manger, on repart dans les bus de notre petit voyage de campagne française Quissac.
Conclusion, London is a wonderful place. Bye bye, bye. You say yes.
Hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye.
Thank you for the subject. My English is very good.
Mais oui, on y croit, monsieur. Maintenant, nous allons découvrir ce qui se cache sous le sourire de la Joconde.
Ouais, qu'est-ce qui se cache ?
Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du plus célèbre tableau, la Joconde.
Alors Dana, qui est la Joconde ?
La Joconde est le portrait le plus célèbre au monde. L'identité du modèle est régulièrement remise en question. Mais on admet généralement qu'il s'agit d'une dame florentine prénommée Lisa, épouse de Francisco della Gioconda. Le nom du tableau est Mona Lisa, mais on l'entend sous un autre nom, la Joconde. Mais Dana, qui a réalisé la Joconde ?
Réalisée par Léonard de Vinci, peintre le plus célèbre de son époque, à partir de 1503, le tableau aurait été commandé par ce marchand qui souhaitait installer un portrait de son épouse Lisa dans leur nouvelle maison. Dana, crois-tu que la Joconde a été modifiée ?
Pendant 15 ans, la Joconde a été modifiée par Léonard de Vinci en France. Lana, pourquoi la Joconde est-elle à Paris et pas en Italie ?
La Joconde a débarqué à Paris à l'hiver 1516 dans les valises de son auteur, alors en disgrâce de son pays. Placée sous la protection de François Ier, l'artiste offre plusieurs de ses œuvres à la France en échange d'une pension. Mais Dana, quelle taille fait le tableau de la Joconde ?
La taille de la Joconde fait 77 par 53 cm. Lana, est-ce que la Joconde a été volée ?
Elle a été volée en 1911 et retrouvée en 1913 chez un vitrier italien qui l'avait conservée dans son appartement.
En résumé, le tableau de la Joconde est le plus célèbre tableau au monde et tout le monde veut l'avoir. Plus de 10 millions de personnes chaque année viennent la voir au musée du Louvre en priorité. Mais Lana, si elle n'avait pas été volée, serait-elle aussi célèbre ?
Nous n'en savons rien, un mystère de plus.
Et c'est là où se termine notre chronique. Au revoir et à bientôt.
Thank you.
êtes toujours sur Radio Escapade, c'est Maximilien qui vous parle. Lucien mange du papier. Non, Lucien, pas la feuille.
Mais j'ai faim, moi.
Enfin bref, Arnaud nous dévoile l'Iliade.
Vous connaissez tous l'Iliade, ce mythe fondateur raconté par Homère entre 850 et 750 avant zéro. Il met en scène différents héros de la Grèce antique, mais également des Troyens comme Hector ou Paris. Troie était une cité-état d'Asie de l'Ouest, plus précisément située sur le promontoire d'Issalique, à 4,8 km de l'entrée sud des Dardanelles, découverte par Heinrich Schliemann en 1871. L'Iliade raconte l'histoire d'une guerre entre les cités de la Grèce antique et la cité-état de Troie. Elle fut déclenchée par Eris, divinité de la discorde, qui, offensée par Zeus car elle n'avait pas été invitée au banquet que donnait en l'honneur du mariage de Thétis et Pélée, elle jetait une pomme sur laquelle était inscrite « pour la plus belle ». Les déesses Athéna, Aphrodite et Héra se disputèrent donc la pomme et décidèrent d'aller voir Paris, un jeune berger troyen, fils du roi Priam, pour les départager. Elles lui promettent chacun un cadeau s'il les désigne. Aphrodite, déesse de l'amour, lui promet la plus belle femme du monde. Paris la choisit donc, mais sa promesse s'annonce plus complexe que prévu. La plus belle femme du monde est Hélène, fille de Zeus et de Léthée, sœur de Castor et Pollux, épouse de Ménélas. Ménélas est le roi de Sparte, une cité-état du sud du Péloponnèse qui avait une organisation politique complexe. Ses habitants, hommes comme femmes, étaient formés très tôt et pendant très longtemps aux pratiques militaires. Paris enlève donc Hélène lors du banquet des noces de Thétis et Pélée et la ramène à Troie. Ménélas doit voir son frère Agamemnon, roi de Mycène, et lui demande d'attaquer Troie pour lui ramener son épouse. Agamemnon part donc avec son armée, mais aussi avec les armées de toutes les cités grecques. Tous ces princes et leurs hommes se rassemblent à Aulis, un port où ils attendent que le vent leur soit favorable. Les Grecs, qu'on appelle parfois les Achéens, sont commandés par Agamemnon, qui s'est autoproclamé chef de toutes les armées. Il amène avec lui le devin Calchas, qui avant le départ des navires grecs, lui explique que le vent ne se lèvera pas que s'il sacrifie sa fille Iphigénie à la déesse Artémis, ce qu'Agamemnon fait. Quand il débarque sur le rivage, la citadelle s'est préparée, mais la guerre qui devait être une razzia rapide durera finalement 10 ans et sera un massacre pour les deux camps. L'Iliade décrit en détail les nombreux combats, les blessures, les morts et les exploits des héros. Le héros principal côté grec est Achille, connu pour ses qualités guerrières et pour ses colères. Il est quasiment invulnérable car sa mère Thétis l'a plongé dans le Styx, un des fleuves des enfers, en le tenant par le talon, qui est donc son point faible. Chez les Troyens, le héros principal est Hector, frère de Paris, connu pour sa droiture et sa valeur au combat. Achille et Hector s'affronteront dans un combat à mort. Avant le combat, Hector demande à Achille de respecter son corps si jamais il perd. Mais Achille refuse et promet à Hector qu'il attachera son corps à son char et qu'il le jettera aux chiens. Il le fit donc. Le vieux roi Priam, cependant, demanda à Achille de lui remettre le corps de son fils et celui-ci, ému par le vieil homme, accepta. Durant cette guerre, les Troyens aussi avaient des alliés. On voit par exemple cela avec les Amazones, dirigées par la reine Penthésilée, qui sera elle aussi tuée par Achille. Paris, très bon archer, tuera Achille en lui décochant une flèche au talon depuis les remparts de Troie. L'Iliade se clôt sur les funérailles d'Hector et ne raconte pas la fin de la guerre de Troie. L'Iliade est un des plus grands mythes fondateurs de l'histoire de l'humanité. En effet, elle raconte l'union des cités grecques pour former un seul état, dirigé par un chef principal. Pour conclure, si l'on connaît encore ce mythe, fondé vers le XIIe siècle avant zéro, écrit au VIIIe siècle avant zéro, c'est que c'est un récit palpitant qui touche au principe même de notre humanité. Les héros sont pleinement humains, ils ont autant de défauts que de qualités et sont manipulés par les dieux de l'Olympe comme des marionnettes. L'Iliade nous invite à faire preuve d'humilité face à notre destin.
Voici Louis et Charlie qui vont nous raconter l'histoire du manga.
Et bien le bonjour, vous êtes bien sur TF2. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mangas, ces livres mythiques connus de tous. Notre équipe s'est donc posé la question de quelle est l'origine des mangas. Reportage, Louis Mota, Charlie Elkin-Fournier.
Ce programme ne vous est pas proposé en audio description.
caricature d'animaux et d'humains est le nom du tout premier manga connu dans le monde. Dessiné sur un rouleau de 4 mètres sur 10, il date du 12e siècle. Bien que le manga le plus vieux du monde date du 12e siècle, le manga comme on le connaît aujourd'hui a commencé à être populaire qu'en 1902. Vers la fin de 1990, des mangas très célèbres comme One Piece, Naruto ou L'Attaque des Titans sont apparus. Ces séries ont eu un grand succès et donc a été adapté en animé. Mon collègue Charlie vous en parlera. Donc, je te passe le relais, Charlie.
Je te remercie, Louis. Je vais donc vous parler des adaptations en animé. Les adaptations en animé constituent une grande part de la production audiovisuelle au Japon et dans d'autres pays où l'animation japonaise a une large influence. Que ce soit des mangas populaires comme Naruto, One Piece ou L'Attaque des Titans, ou des light novels comme Sword Art Online, ces adaptations offrent un nouveau moyen d'apprécier des histoires bien connues. Mais transformer une œuvre écrite ou dessinée en série animée, ce n'est pas une mince affaire et demande souvent beaucoup de travail.
En conclusion, les mangas, aussi vieux soient-ils, ont toujours eu une place dans notre culture. Merci et à bientôt sur TF2. Si vous avez manqué nos précédents reportages, allez sur MyTF2 Replay ou TF2 Play.
Merci, on se retrouve après une courte page de pub sponsorisée par Martin et Iban.
Avez-vous des amis ?
Moi non.
5,49€ par jour. C'est ce que vous coûte une location Locklines.
Locklines vous permet de louer un coéquipier dans la grande aventure qu'est la vie.
Nous vous mettons à disposition une expérience unique, du métier véritable.
Grâce à l'application Locklines, ça n'a jamais été aussi rapide de se faire des amis.
Chaque mois, la grande famille de Locklines s'agrandit en proposant de nouveaux compagnons à découvrir.
En fonction de vos centres d'intérêt, notre IA surpuissante les analysera pour vous proposer une expérience hors du commun.
Fan de cuisine mouflée ?
Votre ami s'y adaptera.
Vous êtes collectionneur de rouleaux de papier toilette ?
Votre ami l'est aussi.
Amateur de pizza hawaïenne ?
Et bim, un ami italien pour vous remettre dans le droit chemin. Fini les présentations gênantes, les années de relations et les disputes fussiles. Locklines, stop à la loneliness.
Loneliness signifie solitude. Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez déposer une candidature suivie de votre CV dans la catégorie recrutement de l'application.
Nous revoilà toujours en forme sur Onde de Choc.
Tout de suite, Anton va nous parler des types de Pokémon.
En fait, Pokémon, c'est à la fois le nom d'un univers et des créatures qui le peuplent, donc les Pokémon. Certains grands, certains petits, les uns mignons, les autres terrifiants. L'une des principales caractéristiques des Pokémon sont leurs types. Un Pokémon peut avoir un ou deux types. En fait, les types des Pokémon, ce sont des caractéristiques donc, qui leur sont attribuées en fonction de leurs inspirations et qui leur accordent des pouvoirs. Un fantôme sera de type spectre ou un type feu, crachera des flammes logiquement. Les types définissent aussi qui tape fort ou peu efficacement contre qui et qui résistera plus ou moins bien à qui. Il existe actuellement 23 types, alors accrochez-vous bien. Il y a les types plante, feu, eau, insecte, vol, normal, électrique, sol, roche, combat, psy, spectre, poison, glace, dragon, ténèbres, acier, fée. À ces 18 types s'ajoutent les types exclusifs aux cartes Pokémon, soit plante, feuille plus insecte, goutte, eau plus glace, étoile, normal plus vol, point, sol plus roche plus combat, et œil, spectre plus psy plus poison. Ça va, vous avez tout suivi ? En fait, les types exclusifs aux cartes Pokémon remplacent les types des jeux qui correspondent. C'est bon, j'ai terminé. Au revoir et à la prochaine émission.
Nous passons directement la parole à Aurore et Alissa, qui vont nous présenter le personnage Cruella.
Mais bon sang, c'est qui elle ?
Bonjour à tous !
Vous connaissez sûrement Cruella ?
La célèbre méchante dans les 101 Dalmatiens.
Alors Alissa, pourquoi Cruella est-elle si cruelle ?
Cruella, c'est le surnom que s'est donné Estella, une styliste reconnue.
Au début, Estella est un petit génie de créativité incomprise. Elle change d'école et finit par déménager. Sa mère veut aller voir une amie, qui n'en est pas vraiment une, mais la baronne, sa véritable mère.
Estella apprendra plus tard qu'elle est sa mère biologique. La baronne tua Catherine, sa mère adoptive, sous les yeux d'Estella. Elle s'endormit et se réveilla entourée de deux garçons, des voleurs très doués. Très vite, ils volèrent ensemble.
Quelques années plus tard, les deux garçons offrirent pour l'anniversaire d'Estella un magnifique travail dans son magasin de mode préféré. Ce travail qu'elle attendait tant n'était qu'en fait femme de ménage. Mais du coup, Alissa, Estella est-elle née cruelle ?
Non, Cruella n'est pas vraiment née cruelle. Comme vous l'avez entendu, très jeune, elle a vécu beaucoup de drames. Voilà que se termine notre chronique.
Mais si vous voulez en savoir plus, il y a le film qui est sorti en 2021.
Au revoir et à bientôt pour un prochain sujet.
Toutes les bonnes choses ont une fin, et vous l'avez compris. Ce sujet est donc le dernier de l'émission. Léon, tu peux venir pour faire avec nous une présentation
de la trompette.
Bonjour, c'est Léon. Aujourd'hui, on va parler de la trompette, car nous en faisons tous les trois.
Moi, j'en fais depuis 6 ans.
Moi, depuis 4 ans.
Moi, j'ai commencé cette année.
Nous prenons des cours de trompette, pour moi, à Anduze.
Moi, à Sommières.
Et moi aussi.
La trompette est un instrument à vent, et plus précisément un cuivre.
Dans la trompette, il y a l'embouchure, le droit où on souffle, puis il y a les pistons pour les différents sons. Mais pour différents sons, il faut aussi différents souffles, plus haut ou plus bas.
La trompette doit être lavée après chaque utilisation et il faut régulièrement la nettoyer.
Les différentes trompettes sont le cornet, la piccolo, la trompette sa coulisse, la trompette en si bémol, la trompette à valve à rotative, la trompette en ut, le bugle et la trompette en ré.
Pour jouer sans casser les oreilles de tout le monde, il existe les sourdines, de petits cylindres qu'on doit mettre dans la sortie de la trompette, là où le son sort, plus précisément appelé le pavillon.
J'espère que vous en avez bien profité, notre petit reportage.
Et à bientôt. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu.
Moi aussi. C'était Max
et Lulu, et on vous dit
à la prochaine.
Musique.